Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Merci de nous rejoindre en cette fin de matinée sur Radion. Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour un numéro qui aujourd'hui va nous permettre d'entendre deux romanciers avec lesquels j'ai pu m'entretenir lors de la 14e édition de Livre en Vigne. C'était les 25 et 26 septembre dernier au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Vous pourrez entendre le romancier Aurélien Bélanger pour son dernier ouvrage intitulé Télé-réalité, mais nous ouvrons notre émission avec le dernier roman de Annabelle Combes, roman intitulé Baiser de collection et disponible en librairie aux éditions Héloïse d'Ormesson. Annabelle Combes est diplômée de Néoma, elle est romancière, une romancière d'ailleurs protéiforme qui a également étudié l'histoire de l'art à l'école du Louvre ainsi que les métiers du livre. Elle est l'auteur de La grâce de l'éclat de rire, prix littéraire des Rotary Club 2018, et de La calanque de l'aviateur en 2019. Elle revient sous les feux de l'actualité littéraire avec ce dernier roman qui, comme je vous l'ai dit, a pour titre Baiser de collection, qui met en scène un couple, Tosca, photographe, et Jean, un auteur de polar à succès. Et ce couple a un authentique désir d'enfant qu'ils ne parviennent pas à assouvir. Alors, c'est un roman effectivement sur la difficulté d'avoir un enfant qui peut cimenter un couple, mais c'est aussi une réflexion sur la douleur de la perte et sur la fécondité, notamment celle de l'artiste. Tout de suite, je vous propose d'entendre dans Wagon Livre sur Radion Annabelle Combes.
Baiser de collection, c'est l'histoire effectivement d'un couple qui au départ se séparent, mais parce qu'ils sont à la troisième FIV et qu'ils ne parviennent pas à avoir d'enfants. Je voulais aborder ce que je considère comme être une double peine, hein, à savoir, on vous donne de l'espoir, mais il faut savoir, je suis fille d'obstétricien et de sage-femme, et il faut savoir que malheureusement, les FIV, ça fonctionne pas toujours. Donc j'avais envie de partir de ce couple-là et de poser cette question, quelle est notre fécondité ? Il se trouve que dans ce livre, ils vont chacun a un parcours différent. Hein. Jean, il est auteur de romans policiers, sa femme est photographe d'art. Et dans ce livre, ils vont chacun faire un parcours où la création va féconder autre chose. Voilà. Avec cette idée que y a deux choses qui peuvent nous permettre de passer ce genre d'étape. La première, c'est la rencontre humaine. Est-ce qu'on se laisse faire ? Voilà, parce que Tosca, elle va rencontrer, c'était pas du tout prévu, quelqu'un, bon, vous verrez dans le livre, elle va rencontrer quelqu'un, un vieux monsieur qui va l'aider à faire un certain nombre de choses. Il y a cette rencontre humaine, et puis il y a surtout cette idée, moi, pour avoir fait l'école du Louvre, entre autres, que l'art n'est pas, ne se fixe pas seulement dans les musées, mais que l'art, c'est dans nos vies de tous les jours, et qu'on a tous une créativité. Et que parfois, quand il nous arrive quelque chose, on ne pense pas suffisamment, voilà, à ce qu'on pourrait créer à partir de nos mains, et qui sont aussi des choses qui nous permettent de retrouver le goût ou d'aller vers des choses qu'on n'aurait pas eues. Voilà. C'est le principe du livre. Quelle est notre fécondité ? Et voilà, est-ce que la fécondité, c'est seulement d'avoir des enfants, ou est-ce qu'on a une fécondité propre sur d'autres domaines ?
Alors Tosca, effectivement, la photographe décide de partir en Italie. Elle fait une rencontre magnifique dans l'avion. On peut pas en dire plus.
Elle se fait mettre le grappin dessus.
En fait, on sait pas trop. Voilà, elle a pas vraiment choisi.
Elle a pas vraiment choisi. Elle se fait mettre
le grappin. Elle est déroutée, en fait.
Elle est déroutée, c'est le cas de le dire. Elle prend ses deux Leica et elle se dit, bon, je vais me poser parce que là, c'est trop difficile. Elle est fatiguée, hein. Toutes les mamans qui ont eu des enfants ou des fausses couches le savent. Et, à l'aéroport, elle se fait mettre le grappin dessus par un vieux monsieur, Ferdinand, 75 ans, tchèque, arrivant de Prague avec une valisette qu'il ne veut pas lâcher. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valisette? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour lui? Elle va accepter de, en fait, de se dire au point où j'en suis, bon, je vais, voilà. Et ça va être une rencontre auquel elle ne s'attendait pas du tout. Voilà, on va pas en dire plus. Et qui va éveiller chez elle, en tous les cas, un renouveau de son regard de photographe d'art. Et donc, en lisant le livre, effectivement, on a ces deux pôles. On a ce pôle de la photographie d'art et qu'est-ce qu'elle dit, parce que c'est comme un tableau, une photographie d'art, ça dit des choses et ça vous appelle. Et puis il y a ce double regard à côté de Jean qui lui va faire un parcours dans les baisers. Et on
alors, peut... Jean, lui, c'est intéressant parce que quelque part, il... Alors le roman, rappelez-vous, hein, a pour titre « Baisers de collection ». Lui veut retrouver le parcours... presque biographique des
initiatique
baisers,
presque
des baisers qu'il a reçus
qu'il a donné
de son enfance,
qu'il a reçu
alors, mais il va aussi voir les baisers représentés en peinture dans les musées.
Alors le truc c'est que Jean, quand sa femme décide de faire cette pause, c'est un auteur policier qui est bien installé sur le marché, voilà, de la littérature policière. Il a fait 11 romans policiers en 15 ans et vous en connaissez des gens qui sortent un roman policier tous les ans. Et en fait, quand sa femme le quitte, il a une forme d'obsession, c'est de revenir, de retrouver les baisers. Et donc le premier baiser qu'il a donné à Saint-Lunaire, il repart sur cette plage. On a tous donné un baiser sur une plage. Et il se dit que peut-être il en a un peu marre des cadavres et que peut-être il faut qu'il donne autre chose. Il se trouve que là, lui aussi va faire une rencontre, voilà, avec un peintre qui va lui confier un portfolio. Et Jean va remonter dans ses baisers qui sont les baisers... donner, reçu, mais aussi ceux qu'on n'a pas forcément envie de recevoir. Je dis souvent, hein, il n'y a pas que la arrière-grand-mère qui a du poil au menton qui gratte. Il y a plein de choses dans la vie où on vous a embrassé, vous n'aviez pas forcément envie d'avoir le baiser. Et puis, ce faisant, Ézéchias lui donne une clé. Et donc là, il va rentrer dans des baisers qui sont des baisers iconiques de l'histoire de l'art, mais pas seulement. Il y en a que vous connaissez peut-être pas. Enfin voilà, moi j'ai été très marquée par le baiser de Néfertiti à sa fille, qui a un bas-relief absolument magnifique. Moi, je suis rentrée à l'école du Louvre avec cette première œuvre que j'ai prise en frontale, qui est très, très moderne. Donc, beaucoup de gens qui lisent le livre me disent qu'ils vont effectivement voir ce trajet des baisers que lui fait faire Ézéchias, que lui décide de faire. Mais en même temps, il comprend aussi pourquoi Ézéchias décide de lui faire faire. Ézéchias est peintre et qu'est-ce qu'il dit de sa propre vie à lui à travers ses baisers. Donc en fait c'est fécondant, fécondé. Des deux côtés, que ce soit Ferdinand, Tosca ou que ce soit Jean et Ézéchias, il y a cette ouverture à l'autre qui fait que si on est capable de mettre en un peu nos réflexes, on arrive à recevoir et à donner des choses qui sont exceptionnelles. Et donc c'est un peu ça l'idée du livre, mais c'est l'idée de ma vie en règle générale. Voilà.
Mais il est question, par exemple, de baisers heureux et de baisers douloureux.
Ah oui, il est question de baisers douloureux. Donc,
c'est quoi un baiser douloureux ?
Un baiser douloureux, c'est un baiser qu'on reçoit ou qu'on a attendu et qu'on reçoit pas au bon moment, qu'on n'a plus envie de recevoir parce qu'on a attendu tellement longtemps que quand il vient, c'est trop tard. Un baiser douloureux, c'est un baiser que quelqu'un vous fait sur une tombe. Il y a plein de manières de... Voilà, on enterre quelqu'un et il y a quelqu'un qui vient vous embrasser. Ce baiser-là peut être un baiser dont vous n'avez pas envie parce qu'il remplace pas celui qui est devant vous. Ce livre, il a été aussi écrit en période Covid. Moi, je perdais du monde autour de moi, donc c'était... Ou les baisers douloureux, c'est aussi les baisers qu'on aimerait avoir reçus et qu'on n'a pas reçus au moment où on voulait les recevoir. Alors Jean, il en a pas mal, mais bon.
Il a une tante, la chevrière, elle est formidable.
Ça. Alors il a une tante, il se trouve que Jean a une tante qui a vécu la même chose. La même chose que lui, mais elle a, à l'époque, évidemment, la FIV n'existait pas. Hein, donc elle avait pas 36 solutions. Il fallait adopter, et très souvent adopter à l'étranger, et elle refuse de le faire. Et elle lui explique pourquoi. Elle a refusé d'aller au Vietnam chercher un petit. Et ses raisons sont très simples, mais je vais pas vous les dévoiler, je préfère que vous alliez voir. Mais elle lui dit, en fait, et c'est ça qui m'intéressait, c'est-à-dire tu as tellement de talent que ses talents, à la limite, qu'est-ce que tu vas en faire? Et elle, son talent à elle, sans doute, c'était ses chèvres, supporter peut-être son mari aussi, dont elle donne des descriptions pas du tout évidentes, et puis être la tante, parce qu'il y avait des soucis chez lui avec ses parents, hein. Jean avait pas forcément des parents présents comme il aurait souhaité, et donc elle n'était pas mère, la tante, mais elle était une petite maman de substitution aux vacances de Noël, et donc elle a joué son rôle aussi.
Mais il y a aussi, et c'est intéressant, enfin, moi, personnellement j'y ai été sensible, et peut-être que Philippe Grimbert, un psychanalyste, pourra, même Aurélien d'ailleurs, peut s'exprimer. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfant dans sa vie fait que l'on est un être incomplet? Parce que Tosca, votre photographe, Jean, votre auteur de Polar, c'est un couple, bon, on raconte pas, hein. C'est un couple qui se sépare, qui a besoin de prendre de la distance parce que l'enfant ne vient pas consolider. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il faut... J'en sais rien, moi, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, donc je suis mal placé pour m'exprimer sur cette question.
Mais moi je pense qu'on a un
après,
regard...
je demanderai... Oui, voilà. Oui, bien sûr.
Je pense qu'on a un regard de la société qui est assez fort par rapport à ça. Quand on a la possibilité d'avoir des enfants, bah, si on n'en fait pas, les gens ne comprennent pas toujours. Bon, je pense qu'on n'est pas du tout incomplet de ne pas avoir d'enfants. Après, c'est... chacun... Moi, il se trouve que moi, j'en ai beaucoup. J'en ai perdu aussi. Et je dis souvent, ce livre, il est né de la rencontre, moi perdant un enfant. C'est pour ça que c'est écrit dans le livre, en couloir de maternité, dans la pièce du fond où on met les mamans qui ont perdu leur bébé, parce que on va pas les mettre avec les autres mamans dont les bébés chantent, hein, excusez-moi. D'avoir eu cette rencontre avec une jeune femme qui, elle, venait de le perdre, mais elle était en FIV. Et cette ritournelle, je n'essayerai pas, je n'essayerai plus, elle est dans le livre parce qu'elle vient de quelque chose de réel. Et je me suis toujours dit, cette jeune femme qui part, elle n'est pas incomplète de ne pas avoir d'enfant. Moi, j'en perdais un, mais je savais que j'étais féconde, que je pourrais avoir d'autres enfants. Elle, c'était pas le cas. Et je me souviens m'être dit immédiatement, on n'est pas incomplet parce qu'on n'a pas d'enfant. Il y a des gens qui ne font pas d'enfants par choix. Il y a des gens, Et donc j'avais envie aussi de mais c'est par rapport à, beaucoup par rapport à la FIV, parce que la FIV c'est vraiment quelque chose qui est un parcours du combattant, qui est quelque chose de compliqué. Dans le livre c'est pas analysé, mais vous l'entendez tous.
Annabelle, effectivement, il y a cette fascination de Jean devant les peintures représentant le baiser. Il y a le baiser d'un père à son enfant. Là c'est une peinture de Daumier.
Hein, Honoré Daumier. Que vous pouvez voir au musée d'Orsay, devant laquelle peu de gens passent d'ailleurs, et qui a une très très belle, très très belle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rentrer dans. Mais on va pas rentrer dans tous les baisers, mais c'est vrai que le baiser d'Honoré.
Parce qu'il y a toute une collection de baisers.
C'est pour ça que ça s'appelle baiser de collection. Mais le baiser d'Honoré Daumier, il est intéressant parce que Daumier, il est connu par son côté caricaturiste. Oui. Et là, quand on rentre dans ce baiser-là, c'est vraiment tout ce qu'on sait de Daumier sur le plan de son engagement, on va dire politique, social, contre la pauvreté, il caricaturait pas seulement pour caricaturer. Et c'est un côté. Moi, je suis aussi allée chercher des choses qui pouvaient dire par rapport à la peinture, qui pouvaient dire des choses. Bon, le baiser de Giotto, c'est un baiser qui est hyper intéressant parce que c'est un baiser fécondant sur une histoire très particulière qui est du côté de la création. Il y a plein de fils à tirer. Daumier, ça m'a intéressé par ce côté politique. On sait trop peu, on connaît le caricaturiste, mais on sait trop peu son engagement politique. Et puis c'est vraiment ce baiser où le père qui est au travail, on sent bien, il est dans les champs et il a presque peur de prendre son enfant, c'est trop précieux, il va le lâcher, quoi. Il est trop fatigué, ce papa. Donc voilà, mais il faudra aller. Ouais, c'est un livre qu'on lit. Il faut aller au musée de Grenoble, il faut vous balader.
Il est vrai que le roman se termine quand même un tout petit peu avant Noël, ouais. Ce qui a quand même un sens.
Oui, ce qui a un sens, parce que. Alors c'est un roman qui se passe un peu partout, mais le Noël se fera en Sicile, mais vous allez aller à Édimbourg, en Suède. Et ça, oui, ça a un peu un sens parce qu'il va y avoir un cadeau très particulier et que ça se termine par le baiser de Chagall, qui pour moi est un manifeste. Comme vous connaissez, je sais pas si le baiser orange de Chagall ou le couple est en l'air. Bon, c'est Chagall, hein, on est d'accord. Mais cette interprétation de décaler ta vie, de voilà ce que lui laisse Ézéchias, voilà, mais on va pas raconter l'histoire non. Sur ce baiser là qui est il faut décaler son regard, ce que faisait Chagall. Chagall décalait tout le temps son regard par rapport à sa peinture, par rapport à voilà, on peut voir mille choses dans un tableau de Chagall, on peut y rester des heures. Et l'idée que cette femme se tord le cou, c'est quelque chose où il lui dit mais prends ta vie dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et voilà, et va chercher des choses que toi tu pensais pas pouvoir faire, or tu peux les faire et tu peux pas, c'est pas tout seul mais c'est avec l'appui de personnes donc qui te donneront voilà cet appui, qui te donneront confiance en toi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Philippe, c'est toujours cette idée de complétude, et moi je dis de grandissement, de jusqu'au bout on apprend. Moi je suis quelqu'un qui apprend toujours, d'ailleurs je dis toujours je ne sais pas mourir, donc faudra que c'est la dernière chose que j'apprendrai, donc mais je le dis parce que ça fait trois fois qu'on me rappelle, on me dit non là-haut c'est pas pour toi maintenant, et du coup à chaque fois que mes enfants me posent la question je dis mais je sais pas mourir, j'ai une merde là, j'ai pas trouvé le mode d'emploi. Donc jusqu'au bout on apprend, et c'est ça qui m'intéresse dans mon travail d'écrivain, voilà.
Mais dans votre roman Baiser de collection, il y a des gens qui souffrent.
Ah oui, il y a des gens qui décèdent.
Au bord de l'envers du décor.
De l'envers du décor, exactement. Et donc.
Et qui vont laisser des enfants.
Voilà, qui vont laisser des enfants, oui, bien sûr. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans toute l'histoire. Mais il y a ces deux revers de la médaille. Il y a des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et puis il y a des enfants qui, malheureusement, perdent leurs parents. Et donc on fait quoi, on fait comment, on construit quoi avec cette matière. Donc c'est abordé dans toutes ces pages, mais avec un prisme qui est plus voilà, qui est pas terre à terre, qui est plus prendre de la hauteur et regarder les choses comme les artistes peuvent les regarder, c'est-à-dire on construit sur du long terme, on construit pas à court terme. Ce qui se produit à court terme, c'est toujours habité par quelque chose qu'il faut voir plus loin et faut prendre son temps et voilà. C'était un peu l'idée.
En tout cas, votre roman illustre parfaitement l'adage latin aut liberi, aut libri, hein, ou bien liberi, ou bien des livres, ou bien des enfants, pardon, ou bien des livres. C'est un peu ça.
C'est ça.
Finalement, si Tosca et Jean ont un enfant, continueront-ils à produire des livres ou des livres d'art?
Ah, mais ils prendront une autre dimension. Ça l'habitera, ça complétera. Moi, j'aime bien cette idée de complétude. Ça complétera. Mais là, on va vous laisser mettre votre patte aussi, hein, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'écris, ce qui est fondamental pour moi, c'est la patte que le lecteur va y mettre. Donc tout n'est pas dit, il y a votre part, à vous, de ce que vous allez imaginer derrière.
Et beaucoup de bleu dans ce roman.
Ah mais depuis le début, hein, c'est mon troisième roman, je suis une femme du bleu. Dans le prochain qui sortira en rentrée littéraire l'année prochaine, il y aura du bleu à nouveau. Donc je suis bleu Chagall à vie, je suis bleu Giotto à vie, et le bleu bien souvent m'a sauvée. Le bleu c'est une couleur qui voilà. Je pense que si j'avais pas été auteur, j'aurais sans doute peint, j'aurais été, je sais pas, Klein. Je sais pas, j'aurais fait des choses à base de bleu.
À l'instant, c'était Annabelle Combes qui évoquait son dernier roman intitulé « Baiser de collection », un roman publié par les éditions Héloïse d'Ormesson, un entretien enregistré lors de la 14e édition de Livre en Vigne. Vous êtes bien à bord de Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque, si vous le voulez bien, un premier intermède musical et bien évidemment, nous nous retrouvons d'ici quelques minutes.
Quand vous dansiez en ce temps-là, pas besoin de pédale wawa, c'était pas la bossa nova, mais ça remuait bien déjà. Les caves étaient profondes et la ronde ne s'arrêtait pas. Un vieux piano bastringue et les dingues tournoyaient déjà. Et Juliette avait encore son nez. Aragon n'était pas un minet. Sartre était déjà bien engagé. Au café de Flore, il y avait déjà des folles. Et mon père venait de débarquer. Il hantait déjà les boutiquiers. Dans sa chambre, on croquait du café. Il ignorait qu'un jour j'en parlerai. Quand vous flirtiez en ce temps-là, vous vous touchiez du bout des doigts. La pilule n'existait pas. Fallait pas jouer à ces jeux-là. Vous vous disiez je t'aime, parfois même vous faisiez l'amour. Aujourd'hui deux salades, trois tirades, c'est l'affaire qui court. L'oncle Adolphe s'était déjà flingué. Son Eva l'avait accompagné. Des fois qu'il aurait voulu draguer. Qui sait si là-haut il n'y a pas des folles. Et mon père allait bientôt planter cette graine qui allait lui donner. Ce débile qui essaie de chanter. Il ignorait que viendraient mes cadets.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Une fin de matinée culturelle et littéraire sur Radion, puisque nous revenons indirectement à travers les reportages que nous vous proposons aujourd'hui sur la 14e édition de Livre en Vigne qui s'est tenue les 25 et 26 septembre. J'y ai d'ailleurs rencontré au château du Clos de Vougeot Aurélien Bélanger, romancier, qui effectivement est sur le devant de l'actualité littéraire, toujours, avec un nouveau roman intitulé Télé-réalité. Aurélien Bélanger a 40 ans. Il s'est fait connaître avec plusieurs romans parus chez Gallimard, mentionnons La théorie de l'information, L'aménagement du territoire, Le Grand Paris. Et puis avec Télé-réalité, Aurélien Bélanger met en scène un personnage qui finalement vient d'un milieu modeste, vient de province, monte à Paris et entame une brillante carrière dans l'univers de la télévision. C'est un héros qui, d'une certaine manière, lui ressemble un peu. Écoutons Aurélien Bélanger évoquer effectivement l'intrigue et les différents thèmes qu'il évoque à travers son dernier roman paru chez Gallimard et qui a pour titre Télé-réalité, Aurélien Bélanger.
Il me ressemble sur un point précis, parce que moi je le fais naître dans une vallée reculée de la Drôme pour vraiment accentuer son problème de diffusion hertzienne. Il capte pas la télé, mais moi j'ai grandi avec une mauvaise antenne télé, comme plein de gens dans les années 80, et je captais mal la 5 et la 6 était totalement pixelisée. Totalement neigeuse. Et c'était en plus, pas de chance, c'était la chaîne qui diffusait des films érotiques. Donc voilà, cette espèce de rapport comme ça, le fruit défendu est là, mais on nous le livre tout gris, tout moche. Voilà, bon. Donc voilà, je lui ai prêté ça. Et cette chose aussi, bah moi, mes parents étaient abonnés à Télérama. En l'occurrence, bon, c'est un peu CSP+, CSP+, moins. Bon, c'était pas Télé 7 jours, mais j'avais une connaissance livresque de la télévision. C'est-à-dire que mon personnage, lui, a pas bien la télévision, mais lit des vieux Télé 7 jours, se les fait donner par le buraliste de son village. Et relie la télé. Et moi, en fait, ma culture, vraiment ma culture, mais au sens de qu'est-ce que je connais en dernier lieu, j'ai lu entre 1990 et 1998 la totalité des critiques de films de Télérama. Donc je connais, c'est pas rien en fait, c'est-à-dire qu'il y a plein de films que j'ai pas vus, mais que je connais parce que j'ai lu les 15 lignes que leur consacrait Télérama. Et se dire qu'en fait, la télévision, qu'un truc visuel, on peut avoir une connaissance livresque à la télévision, ça apporte une distance. Et puis bon, voilà, il y a ce rapport au livre, et du coup, mon personnage le met un peu comme ça, en distance par rapport à la télévision, ce qui est proche de mon expérience, que moi, la grande aventure de ma vie, ça a toujours été la littérature. Et en vrai, j'ai été contaminé par la télévision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mes parents ont arrêté de surveiller ce que je regardais à la télévision, je faisais des orgies télévisuelles, je regardais la télévision jusqu'à l'extinction des programmes à 4h du matin, je regardais la mire, enfin je faisais des trucs stupides. Quand j'allais en vacances chez ma grand-mère, je faisais des nuits blanches devant des clips, des rediffusions de clips d'M6. La nuit, ça n'avait aucun sens. Et c'était même contradictoire avec mon métier d'écrivain. Et en même temps, il fallait bien admettre, et ce livre est là pour témoigner de ça, il fallait bien admettre que la télévision était plus puissante à sa façon que la littérature en tant que fabrication d'images, et qu'il y avait des objets, l'exemple type serait les attentats du 11 septembre, il y avait des objets dont la bonne transcription ne sera jamais littéraire. La bonne transcription d'un attentat du 11 septembre, c'est une image de CNN ou une image d'information en continu. Et donc, le livre est une sorte de reconquête tardive avec mes outils. Est-ce qu'on peut quand même raconter la télévision dont on a oublié à quel point elle était démesurément puissante? Là, nous sommes dans la cour d'un château. Il y a des stars de la télévision qui passent, qui sont invités. génère pas des attroupements. Imaginons une star de la télévision en 90 générerait un attroupement comme seul pourrait générer une pop star. En fait, il y a eu un moment de gloire totale de la télévision. Donc, je voulais rendre justice à ça aussi, qui est un peu ridicule mais touchant.
En tout cas, votre héros, Sébastien Bitreau, bon, il est d'abord assistant sur le plateau de La Roue de la Fortune. Alors, c'est vrai qu'on lit votre roman avec beaucoup de nostalgie, puisque vous citez des programmes télé que j'ai moi-même plus ou moins connus, regardés ou qui étaient incontournables. Vous parlez de La Gaffe avec son costume jaune-orange et puis tous les dessins animés qui ont nourri peut-être notre imaginaire et peut-être nos sensibilités d'une certaine manière.
Bah en fait, le personnage de Sébastien Bitreau s'inspire d'un producteur connu qui s'appelle Stéphane Courby. Et le coup de génie de Stéphane Courby, un peu moins jeune que mon personnage, mais très jeune, il devait avoir moins de 30 ans à l'époque. Il s'associe avec Arthur, qui est à l'époque un animateur assez ringard de radio, qui a fait une aventure sur TF1, qui s'est fait jeter. Et il s'associe à lui avec une idée, comme ça, qu'ils écrivent sur un coin de table. On va fabriquer de la réminiscence de la mémoire télévisuelle. Ça donnera les enfants de la télévision. Et les enfants de la télévision, c'est marrant, parce que moi, je m'en souviens. J'étais au lycée quand ça a sorti, ça devait être 95 ou 96 ou au collège, et ça a totalement, ça a pas duré longtemps, enfin les émissions existent encore, mais le flash que ça a été, ça a totalement retourné ma génération. D'un coup, alors qu'on était des adolescents, on s'apprêtait à devenir des adultes, on commençait à entrer dans des histoires d'amour sérieuses, il y avait des trucs sérieux, et d'un coup on est redevenus des bébés comme ces bébés qui étaient devant l'écran des enfants de la télé, qui regardaient la télévision, et on était des bébés parce qu'on nous renvoyait à des choses qu'on n'avait pas revues à l'époque. Ça n'existait pas la possibilité de revoir des dessins animés de notre enfance. Et bah là, on nous les rebalançait. Là, on nous rebalançait les vieux Goldorak. Et que d'un coup, au moment de grandir, on a été reprisonniers. La télévision nous avait provisoirement avalé. Et on s'est vu. Moi, je me souviens, mes copines au lycée se sont mis à porter des totoches. C'était des petites tétines en verre. Voilà. Il y a eu un truc très régressif comme ça, mais qui a duré l'espace d'une seconde. C'est rien. Mais je me souviens que ça m'avait marqué en me disant. Pourquoi est-ce que tout le monde redevient un bébé? Et ça m'avait d'autant plus marqué que j'avais très vite réalisé moi, mes souvenirs télé, je me rappelais très bien du village dans les nuages, je me rappelle pas de Casimir. Je me rappelle très bien de Musclor, mais je me rappelle pas du tout de Goldorak. Et qu'en fait, au bout d'un moment, de force, on nous a fabriqué une sorte d'inception, une mémoire totalement fausse. C'est-à-dire, vous êtes de 1976, vous connaissez ça. Et les gens se sont mis à chanter les génériques de Chapi Chapeau, Bonne nuit les petits, la flûte, machin, mais ils ne l'avaient pas vu. Donc en fait, ça a été une sorte de moment un peu fou. Et si on prend un petit recul comme ça, théorique, léger sur cette question, c'est un moment où la télévision devient consciente d'elle-même. Elle arrête d'être dans le flux, elle arrête d'être dans le direct, parce que la télévision, c'est ça, c'est un tuyau d'arrosage au sommet de la Tour Eiffel qui tourne tout autour de la France et qui jette des gouttelettes et qui s'évapore. Et là, soudain, ça acquérait une texture proustienne, il y avait de la réminiscence, il y avait quelque chose de nouveau. Et ça, alors, c'est mon personnage qui l'invente, enfin, c'est le modèle de mon personnage qui l'invente, et que d'un coup, la télévision intègre. Au même titre que les grands souvenirs proustiens intègrent la mémoire commune, sachant que c'est une mémoire fausse. Et puis après, on voit bien, le thème revient, c'est est-ce qu'on aura encore des souvenirs communs? Moi, j'ai des copains, je souviens d'une discussion que j'ai eue récemment avec un copain, on marchait dans le 13e et il me montre un banc, puis j'étais là quand Ayrton Senna est mort. Voilà, cette espèce d'événement de synchronicité absolue. Bon, il regardait pas la télé, il était sur un banc. Je crois que ses parents l'avaient appelé au téléphone. Mais voilà, ces espèces d'événements qui forment un peu la trame du temps, comme ces fils rouges comme ça dans la corde du temps dont on se rappelle. Et c'était beaucoup des événements télévisuels. On se rappelle tous des grandes années de Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle. On se rappelle tous, par exemple, la fois où Thierry Messiaen est apparu. On savait pas que le complotisme allait devenir un grand sujet des 20 ans qui venaient. Mais on se rappelle de ce type un peu fou qui nous explique que les attentats n'ont pas eu lieu. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Et voilà. Et la télévision a créé comme ça de l'expérience. Et c'est très beau, cette chose, parce que. Est-ce que c'est pas par là qu'elle est le plus une œuvre d'art? Dans la mesure où elle crée une expérience. Et qu'est-ce que c'est que cette expérience? Elle n'est pas seulement dans l'image. On aura beau re-regarder l'archive, c'est pas ça. L'expérience, c'est. Ce moment du temps qu'on a été cueilli comme ça, comme un moment du temps, si bien, je suis peut-être trop long, mais si bien que le grand genre, par exemple, l'un des grands genres télévisuels que j'adore, et parce que dès que je suis à un salon du livre, je rentre à l'hôtel, je suis un peu sous, j'allume la télé, je tombe toujours sur un documentaire sur un chanteur de variété mort, et cette espèce d'air du temps qui passe, les vieilles chansons, les vieux costumes, les magnétos, ce temps qui reviendra plus, mais qui est un temps très fabriqué. C'est pas le temps brut du documentaire, on voit des gens là, c'est vraiment on a fabriqué comme ça avec une sorte de liqueur violacée, un peu toxique, un peu sucrée, dégoûtante. Bah, l'exemple même, c'est Pascal Sevran, dont je fais un esthète absolu de la télévision. On a fabriqué quelque chose qui est à la fois visuellement pas beau, qui est de l'ordre du kitsch, mais qui nous attrape. Voilà. Et ça m'émeut particulièrement. Ouais.
Et c'est que Pascal Sevran, avec sa chance aux chansons, était tout de même soutenu par le président Mitterrand.
Ah bah, en plus, voilà. Et puis, bah,
il y a du politique derrière.
Et puis, il y avait une œuvre littéraire, et il y avait son journal, très joli titre des journaux. J'ai pas lu les journaux, mais les titres étaient l'odeur des jacinthes, des choses comme ça. Et Pascal Sevran, c'est à la fois. C'était totalement monstrueux, on l'allumait, on éteignait la télé, mais il y avait des surimpressions, voilà, et moi je relis ça à toute une avant-garde télévisuelle. Enfin, il y avait ce côté, il y a quelqu'un au banc titre qui en fait beaucoup trop, et effectivement c'est pas beau, mais je sais pas, c'est encore au-delà, il y a une recherche formelle, ces portraits en médaillon, on dirait des têtes de gens sur des tombes, comme ça, qui bougent, ce rapport profond entre le temps et les chansons. C'est pour ça que je me suis amusé via Pascal Sevran à faire rencontrer Charles Trenet à mon personnage. Charles Trenet, bah, qu'est-ce que c'est que la chanson? La chanson, c'est l'air du temps, c'est la radio, donc c'est l'ancêtre de la télévision, et puis avant c'est les chansonniers, et c'est quelque chose qui est à la fois totalement bouleversant et totalement rien. Enfin, on va pas... Il est bon ton de dire qu'une chanson de Charles Trenet, c'est aussi grand que les plus belles pages de Proust. Non, c'est beaucoup moins, mais pourtant ça nous touche autant.
Télé-réalité, c'est le titre du dernier roman d'Aurélien Bélanger que vous venez d'entendre à l'instant dans Wagon Livre sur Radio. On le retrouve d'ici quelques minutes. Le temps pour nous de marquer un nouvel intermède musical. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à midi et que nous vous proposons aujourd'hui quelques entretiens avec des écrivains qui étaient les invités de la 14e édition de Livre en Vigne qui s'est tenue les 25 et 26 septembre dernier entre Beaune et Dijon au château du Clos de Vougeot.
Y'avait Sergueï à la guitare qui gueulait comme un barbare, même qu'il gueulait si fort que le DJ en est mort. L'avait la voix qui se brisait au bout de chaque fin de mot, ses yeux paumés dans cet écho qui nous faisait tous vibrer. C'était ça la victoire, mon Sergueï, quand c'est que plus rien ne nous faisait taire. Sergueï, buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne. Et quand on trinquerait la dernière, ce serait pas pour se dire adieu, ce serait qu'on irait déjà mieux et que le monde nous foutrait la paix. On irait rire au pied d'un banc sous les coups de la flicaille. On fêterait nos retrouvailles sous le regard des morts vivants. Ce serait ça la victoire, mon Sergueï, quand c'est que plus rien ne nous ferait taire. Buvons à la victoire, mon Sergueï, buvons jusqu'à ce qu'elle nous revienne.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retrouvons Aurélien Bélanger que nous avons rencontré au château du Clos de Vougeot lors de la 14e édition de Livre en Vigne. Aurélien Bélanger qui signe Télé-réalité, un roman paru chez Gallimard et qui met en scène le parcours d'un jeune provincial initialement comptable qui va intégrer brillamment l'univers de la télévision française. Peut-être est-il, comme le souligne la quatrième de couverture, l'homme qui voulait faire de la télévision un art. En tout cas, le roman d'Aurélien Bélanger aborde un grand nombre de thèmes, notamment le fait que la télévision est tout de même entourée par le politique, et les hommes politiques aussi aiment la télévision parce qu'ils aiment l'utiliser. Aurélien Bélanger.
Et la télévision, oui, bien sûr, vous avez raison, c'est totalement des jeux politiques. Elle est anormalement regardée par le pouvoir, et c'est l'une des causes souterraines de mon bouquin. C'est pourquoi est-ce que la télévision n'atteint pas le stade de l'unification continentale qu'a atteint la télévision américaine.
Oui, vous posez la question, finalement, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de télévision européenne
et au niveau télévision.
En fait, à chaque fois, parce que la télévision...
C'est une bonne chose, finalement.
Elle a fini par se faire un peu, justement, par la télé-réalité dont les programmes comme ça ont essaimé partout. Donc, finalement, elle a fini par trouver une façon de contourner ça. mais on voit que les enjeux de pouvoir sont beaucoup trop forts. On a eu des présidents, l'exemple même est Nicolas Sarkozy, on a eu des présidents dont la vraie culture était télévisuelle. Et Nicolas Sarkozy apparaît dans l'histoire contemporaine. À l'époque, on est dans les années 90, le programme qui cartonne avant la télé-réalité, c'est le reality show, la nuit des héros, des pompiers qui racontent comment ils ont sauvé des enfants dans une cage d'ascenseur, machin, et avec des reconstitutions un peu fumeuses, mais des reconstitutions. Et Nicolas Sarkozy, je crois qu'en 93 ou en 94, rentre dans l'école de Neuilly, sauve un enfant sous les caméras et devient héros de reality show. Mmh. Et comme si, pour accéder à son rêve qui était de devenir président, il fallait qu'il en passe par l'incarnation du personnage fictif. Et après, bah, bien sûr, on reverra la scène avec Donald Trump, héros de télé-réalité, devenu président des États-Unis. Mais voilà, déjà, sur cette petite scène de 93 de Nicolas Sarkozy, se joue quelque chose. Ouais. Et puis moi, je suis un peu baudrillardin. Enfin, je pense que le régime des images dit quelque chose d'important de nous-mêmes, en fait.
Alors, vous rappelez, il y a plein d'informations. Thierry Ardisson, qui est l'auteur de la chanson de Chaussée aux Moines, par exemple. Ça, je ne le savais pas.
Et de Trop, c'est tropicaux, oui.
Ah oui. Et aussi... Vous parlez de Jean-Luc Delarue, qui a été aussi un charmant beau gars de la télévision, qui animait Ça se discute, et puis qui ensuite a un peu dérapé. Enfin, c'est surtout sa propre existence, ses propres choix de vie qui l'ont fait un peu déraper aussi.
Ben en fait, Jean-Luc Delarue, j'en fais le double de mon personnage, parce que Jean-Luc Delarue naît et parisien. Son père est plutôt dans les médias, enfin il fait des journaux je crois pour défendre les droits des contribuables, donc c'est vraiment un enfant de la balle à ce niveau-là, Jean-Luc Delarue, et il arrive très jeune à la télévision et d'un coup tout le monde dit c'est le meilleur de sa génération et il va devenir riche, il va faire des animateurs producteurs dans les années 90, il va vendre cher ses émissions, etc. Et puis c'est tout en fait, il va disparaître, problème de drogue, problème d'alcool.
L'agression d'une hôtesse de l'air.
Voilà. Et alors qu'en fait, il avait tout pour être le futur empereur de la télévision. Et le futur empereur de la télévision, bah, le modèle de mon bouquin, donc c'est Stéphane Courby, mais moi, il s'appelle Sébastien Bitreau. L'empereur de la télévision, c'est qui? C'est un petit gars né dans la Drôme qui connaît personne, qui est bon en comptabilité.
Oui, c'est un comptable.
Voilà. Qui est juste plus sérieux que les autres. C'est-à-dire qu'il se dit, en fait, là, on marge à 60%. Si on fait ça, on va marger à 75%. Et bah, les télévisions, en fait, contrairement à ce qu'on pense, les télévisions ne savent pas faire de télévision. C'est les boîtes de prod qui savent faire de la télévision. Et donc, lui réinvente ça. Les boîtes de prod fabriquent un empire de boîtes de prod. Et il se rend compte, in fine, il rencontre Delarue en disant que c'était lui, en fait. C'est lui qui aurait dû être. C'est cette espèce de dialectique typiquement française. Tout est fait pour que ce soit le Parisien, donc la personne bien née, qui a l'entre-gens, les réseaux qui gagnent. Et il y a ce petit moment, on ne va pas dire que ça dément Bourdieu, parce que Bourdieu gagne à 99,9% des fois, mais 0,1%, c'est l'outsider absolu qui gagne. C'est celui qui n'avait aucune chance, parce qu'il a eu cette énergie provinciale. Et bon, sans faire de psychologie de bazar, moi je ne suis pas parisien, je suis né en Mayenne, j'ai grandi en grande banlieue, et je me sens... Je suis longtemps senti plutôt humilié par ces stigmates de la classe moyenne en arrivant à Paris. Et en fait, au bout d'un moment, la chose se retourne et on se sent incroyablement fort de ne pas avoir grandi totalement dans le moule. Et ça donne ce petit génie. Alors, il y a des génies de la bourgeoisie, n'exagérons pas, mais ça donne ce petit génie en plus qui fait qu'on y arrivera mieux. Enfin, c'est ce sentiment que j'avais. Donc, en fait, il y a une sorte de portrait comme ça en filigrane de cet éternel débat français entre la province et Paris, quoi.
Ce qui est intéressant, Aurélien Bélanger, à un moment dans votre roman, c'est que vous expliquez que finalement, avec les émissions de télé-réalité, c'est les anonymes qui devenaient des célébrités et que les gens du showbiz avaient tendance un peu à s'éteindre, à disparaître, éclipsés par des anonymes. Alors je pense à des gens comme Loana ou des Stevie qu'on a présentés comme des gens qui avaient réussi, alors que, si je puis me permettre, je considère qu'ils n'ont pas réussi grand-chose, quoi. Bah, d'ailleurs, aujourd'hui, que sont-ils devenus?
Ça a été la question. En fait, eux, c'est vraiment la première génération. Donc, ils ont plutôt morflé dans Loana. Ils ont fait une petite carrière médiatique comme Stevie. Ils sont pas devenus des gens très importants. Mais si on se projette 10 ans plus tard, si on prend par exemple Kim Kardashian, sa famille, ils sont trois à être devenus milliardaires en faisant que de la télé-réalité. Donc, ils sont un petit peu meilleurs et ils sont devenus plus forts que l'écosystème des chaînes. Avant, les Kardashians, pour exister, avaient besoin d'une chaîne qui acceptait de diffuser leurs trucs. Ils étaient pris comme ça dans des contraintes de programmatiques. Et maintenant, ils sont devenus tellement autonomes et tellement en eux-mêmes l'aristocratie du showbiz qu'aujourd'hui, les chaînes les paieraient et eux sont très indépendants. Donc, il y a cette fabrication. Moi, comme tout le monde, quand j'ai vu apparaître le métier d'influenceur sur Instagram, je suis moqué. Qu'est-ce que c'est que ces gens?
Ils sont pas
journalistes, ils font de la publicité. Que font-ils? Et puis, avec le recul, j'ai admis qu'en fait, ils sont au terme de ce processus, ils fabriquent quelque chose, pour revenir à notre discussion tout à l'heure, impliquant leur rapport à leur propre subjectivité et leur rapport aussi. Ils deviennent des acteurs sociaux. Voilà, et puis la télévision, c'était clair. C'est-à-dire, il y avait les émissions qui n'étaient pas de la publicité, et puis c'était entrecoupé de publicité. Sauf que le vrai produit de la télévision, on sait bien que c'était la publicité. Tout le reste, c'était fait pour nous préparer à regarder la publicité. Donc en fait, c'était à la fois très séparé, mais très pur et en même temps totalement impur, puisqu'on regardait pas le bon endroit. On regardait l'émission de Michel Foucault, On regardait l'émission de Jean-Pierre Foucault, sauf qu'en fait, ce qu'il fallait qu'on regarde, c'était la publicité pour Fridan au milieu. Donc en fait, tout était fait pour qu'on se trompe d'objet. Là, au moins, avec ces personnalités, on va dire narcissiques, égocentrées, etc., on se trompe moins d'objet. On regarde le spectacle est plus pur.
Le romancier Aurélien Bélanger, enregistré le 26 septembre dernier dans la cour du château du Clos de Vougeot lors de la 14e édition de Livres en Vigne. Aurélien Bélanger qui signe un nouveau roman intitulé Télé-réalité et qui est toujours disponible en librairie. On le retrouve d'ici quelques minutes. Le temps pour nous de marquer une nouvelle virgule musicale. C'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radion, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout avec danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois. Dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi. Que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous accompagner à bord de ce Wagon Livre aujourd'hui sur Radion. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous allons retrouver Aurélien Bélanger pour continuer la discussion autour de son dernier roman, paru chez Gallimard et intitulé Télé-réalité. Un roman qui revient sur les années un peu folles de la télévision qui avait mis en avant ces émissions de télé-réalité. Rappelez-vous, c'était au début des années 2000, il y a un peu plus de 20 ans. La télévision qui aujourd'hui connaît encore un fort succès, mais qui est concurrencée par Internet, par les séries sur le net. Et je pense qu'il n'est pas superflu de demander à Aurélien Bélanger si la télévision n'est pas condamnée à disparaître. Aurélien Bélanger.
Tous ceux qui la disent est morte, moi le premier, se sont trompés. Elle va plutôt bien. Elle est totalement fragmentée. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est totalement fragmentée.
Parce qu'il y a trop de chaînes.
Trop de chaînes et puis des écoutes différées. En tout cas, elle a perdu son statut de modernité, mais de façon marrante, c'est qu'à un moment Netflix nous inonde de séries.
C'est la technologie qui a
fait soi-disant plus géniales les unes que les autres, et puis in fine Disney Plus réinvente la série où il y a un épisode par semaine. Il réinvente en fait le feuilleton à l'ancienne. Alors qu'avant ce rapport en fait la télévision n'a pas perdu. Enfin, par exemple, qu'est-ce que c'est que Twitch? Twitch, c'est de la télévision, c'est des gens qui font des directs de 8 heures. Donc en fait, elle est totalement hybridée en fait. On ne sait plus trop ce que c'est. Le concept de chaîne centralisée a perdu. Mais la consommation de spectacle a des beaux jours devant elle, et donc les acteurs. Le propre des acteurs capitalistiques, c'est de retomber sur leurs pas en général. Donc la télévision a muté, et en tout cas, elle a eu un âge d'or, incontestablement. Disons que c'était l'avant TNT, quoi, le grand moment. Mais bon, elle est encore en train de nous fabriquer un candidat présidentiel sous nos yeux, en fait, la télévision. Éric Zemmour est totalement une créature, n'est pas une créature de librairie, c'est vraiment une créature télévisuelle. Donc elle est encore puissante, ouais.
Et comment vous regardez cette création de créatures politiques qu'est Éric Zemmour, parce que tout homme politique a besoin de la télévision.
Éric Zemmour, c'est vraiment la figure gramscienne pure de l'époque n'arrive pas à accoucher de quelque chose, et donc elle nous, dans cet entre-deux, dans ce clair-obscur, elle fabrique des monstres en fait. Éric Zemmour est le nom d'une mauvaise question, d'une mauvaise réponse, est une pure imposture intellectuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que pourquoi cette imposture intellectuelle séduit ? Parce qu'en fait, incontestablement, le type séduit, et c'est vraiment quelque chose d'intéressant à analyser. Par exemple, à titre personnel, j'ai longtemps bien aimé regarder Zemmour sur CNews. Alors que je savais qu'il était fasciste, je savais que ce qu'il disait était faux, je savais qu'il était un danger pour la démocratie, je savais tout ça. Mais j'étais quand même attiré par cette espèce de face de méduse pétrifiante, d'une sorte de dialectique figée en fait. Et c'est ça, Zemmour en fait, il y a que des outils marxistes qui peuvent rendre compte en fait. Il est une stase dans cette sorte de dialectique comme ça fluide de l'air du temps. Il y a un moment où ça a bloqué en fait. Et pourquoi est-ce qu'on regarde le mauvais objet ? Voilà. Pourquoi est-ce qu'on regarde les boucs émissaires qui nous désignent ? Et il n'en est que plus dangereux, parce qu'en fait, très rapidement, il va passer de fasciste d'extrême droite infréquentable à, comme a pu l'être Hitler en son temps, il va apparaître comme une solution rationnelle pour le capitalisme. Et c'est là où il est intrinsèquement dangereux, c'est qu'il est à la fois totalement fasciste et en même temps, comme ça fait 20 ans qu'il exerce au Figaro, il est un peu de centre droit.
Il a eu pas mal de soucis, il a eu des procès.
Non, mais je veux dire, il est de centre droit. Il est de centre droit dans ses habitudes et dans ses fréquentations. Marine Le Pen ne fréquente pas les journalistes. Marine Le Pen ne fréquente pas les grands patrons ou quelques-uns. Éric Zemmour, ça fait 20 ans que c'est son métier. Donc en fait, il est totalement fasciste, mais il apparaît et il commence à apparaître. Et c'est pour ça que cette campagne est dangereuse. Il commence à apparaître comme un candidat possible de droite classique. Donc voilà, mais bon, ça nous emmènerait trop loin.
Alors, il faut quand même, de temps en temps, éteindre sa télévision pour se plonger dans la lecture.
Non mais bien sûr. De toute façon, à la fin, je crois que je le dis au début du livre, à la fin, c'est la littérature qui ramasse, c'est nous qui gagnons. C'est nous sommes le média le plus faible, le plus fragile, celui qui demande le plus d'attention, mais on est le seul qui tient sur plusieurs millénaires.
Pour moi qui aime beaucoup la radio, puisque j'en fais, la télévision a tué aussi les stars de la radio, parce qu'il y avait des grands noms de la radio. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont passés de la radio à la télévision à une certaine époque.
Oui, bah après, il y a une fluidité, hein. La radio, c'est devenu la deuxième division, quoi. Quand sa carrière télé vacille, on essaie de se refaire en radio, etc.
Oui.
Bon, la radio a un rapport d'intimité parce qu'elle a pas, elle est moins prégnante en fait. Elle exige moins de son téléspectateur. Mais bon, en quelque sorte, ce qu'ont inventé les chaînes de télévision en continu, c'est la radio. Ça se regarde pas spécialement, ça s'allume en bruit de fond et
c'est vrai.
Et ça va, oui.
Alors Aurélien Bélanger, avant de nous séparer, quels sont les projets littéraires ?
Terminer le roman que je suis en train d'écrire avant la fin de l'année.
Et on peut en savoir un peu plus ? Ou pas ?
Non, mais tout lecteur attentif de télé-réalité saura, même s'il n'est pas cité, quel est le personnage historique dont je vais m'inspirer.
C'était Aurélien Bélanger, enregistré lors de la 14e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Retrouvez d'ailleurs son dernier roman en librairie, paru chez Gallimard, Télé-réalité. Quant à ses plus anciens romans, on les trouve aisément en format de poche, notamment chez Folio. Mentionnons La théorie de l'information, L'aménagement du territoire ou encore Le Grand Paris ou Le continent de la douceur. Aurélien Bélanger, que vous avez pu entendre en cette fin de matinée sur Radio. Et puis je vous rappelle que si vous avez manqué le début de cette émission, vous pouvez la retrouver très facilement en quelques clics en vous rendant sur le site d'archives de l'émission www.yannickpetit.fr. On marque un dernier intermède musical et on se retrouve juste après pour se quitter et vous donner le programme de la semaine prochaine.
Émission littéraire.
Votre wagon livre touche pratiquement à sa fin. Je vous confie les noms des auteurs et les références des romans dont il a été question aujourd'hui. L'émission s'est ouverte avec Annabelle Combes pour Baiser de collection paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. Et vous avez également pu entendre Aurélien Bélanger pour Télé-réalité, roman disponible en librairie aux éditions Gallimard. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, 30 octobre, toujours à 11h sur Radion, pour un numéro au cours duquel je vous proposerai quelques reportages enregistrés lors du Salon du Livre de Noisy-le-Roi dans les Yvelines. C'était le 3 octobre dernier. Vous pourrez entendre et découvrir Sophie Loubière, auteure d'un roman absolument passionnant passionnant et frissonnant intitulé « De cendres et de larmes », l'histoire d'une famille dont le père est employé municipal de la ville de Paris et qui, en fait, pour bénéficier d'un appartement beaucoup plus grand, accepte un poste de conservateur au cimetière de Bercy. La famille occupe donc un pavillon de fonction de 180 mètres carrés situé au milieu de ce cimetière. Et la vie de cette famille va s'en trouver fortement bouleversée. C'est à découvrir en tout cas samedi prochain, toujours à partir de 11h dans Wagon Livre sur Radion. Vous pourrez également entendre le sociologue québécois Mathieu Bocoté que j'ai pu rencontrer et qui évoquera quelques aspects de son dernier essai paru aux éditions des Presses de la Cité, La révolution racialiste et autres virus idéologiques. Et puis j'ai également pu m'entretenir avec le directeur du Figaro littéraire, Étienne de Montetti, pour un dernier roman paru chez Stock intitulé La grande épreuve. Étienne de Montetti revient dans ce roman sur le parcours d'un jeune homme qui, finalement, suite à de mauvaises rencontres, commet l'irréparable en assassinant, au nom d'un islamisme forcené et violent, un prêtre dans une église. Un retour sur le drame et l'assassinat du père Hamel à Saint-Étienne du Rouvray. C'est au programme donc de Wagon Livre, samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. En attendant, je vous remercie bien évidemment de nous avoir suivis aujourd'hui et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent congé de fin de semaine. Au revoir et à samedi prochain.